de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française et de vous dire depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant le journal d'aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres. Batam propose un paquet touristique de l'éclipse solaire en anneau. Sleman organise le festival du village touristique 2019. Une opération en mer de 30 jours a été organisée pour faire face aux dommages environnementaux. Les approches face aux problèmes frontalières doivent être changées, a déclaré un chercheur de l'IPI, et Daoud Jordan prend le titre de super-léger. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet avec moi Audrey. Batam propose un paquet touristique de l'éclipse solaire en anneau. Les hommes d'affaires touristiques et le gouvernement municipal de Batam dans les îles de Riau proposent aux touristes nationaux et étrangers des forfaits touristiques d'éclipse solaire en anneau. Le responsable de l'Office de la culture et du tourisme de la ville de Batam, Ardi Winata, a déclaré dimanche à Batam que sa partie l'avait informé aux hommes d'affaires depuis l'année dernière et qu'il avait organisé des paquets touristiques et les avait vendus à des touristes étrangers. Il a déclaré que les forfaits vendus, y compris l'hébergement et les commodités sur l'île de Galang, seraient les meilleurs endroits pour assister à des éclipses solaires le 26 décembre 2019. Outre l'île de Galang, des activités similaires ont été menées autour de la zone touristique de Dendang Melayu, le pont 1 et la plaine d'Engku Putri. Sleman organise le festival du village touristique 2019. Au total, 24 villages touristiques en régence de Sleman, dans la région spéciale de Yogyakarta, ont animé le grand final du festival du village touristique de Sleman 2019 au bassin Kaliaji, Sangurejo, Wonokerto, Turi et Sleman dimanche. Le chef de l'Office du tourisme de la Régence de Sleman, Sudar Ningsi, a déclaré que le festival du village touristique avait pour but d'évaluer la gestion des villages touristiques de la Régence de Sleman. En outre, cette activité doit également encourager le village touristique de jouer activement son rôle en tant que moteur de l'économie populaire et à renforcer la sensibilisation du tourisme. Un total de 24 villages qui ont participé à cette activité se composent de trois catégories, à savoir grandir, se développer et indépendante. Le régent adjoint de Sleman Sri Muslimatun, qui a ouvert cette activité, a déclaré que l'existence de villages touristiques dans la région de Sléman est un atout très important pour le développement du tourisme dans la région de Sléman. Chaque village touristique a sa propre particularité qui attire les touristes. Il a dit qu'avec le nombre croissant de villages touristiques qui sont bien gérés par la communauté, le nombre de touristes visitant Sléman augmentera certainement. Une opération en mer de 30 jours a été organisée pour faire face aux dommages environnementaux. Le gouvernement indonésien a mené une opération maritime de 30 jours de novembre à décembre 2019 pour lutter contre les crimes environnementaux commis dans les eaux territoriales afin de lutter contre les dommages environnementaux. Ratio Ridosani, le directeur général de l'application de la loi au ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, à Jakarta dimanche, a déclaré que l'Indonésie devait lutter contre la criminalité liée à la mer. Selon lui, ceci est le plus grand programme appelé Opération en mer de 30 jours avec le slogan Stop Pollution and Destruction de l'environnement, sauvons notre mer. L'opération maritime de 30 jours coordonnée par le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, implique le ministère de la Coordination des Affaires maritimes et des Investissements, le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires agraires et de l'Aménagement du territoire. Agence nationale des terres, le ministère des Transports, la maritime indonésienne, la police nationale indonésienne, l'agence de la sécurité maritime et l'agence nationale de l'aéronautique et de l'espace. Les activités opérationnelles comprennent les activités de surveillance en mer susceptibles d'endommager l'environnement. Une série de campagnes de préservation de l'environnement destinées aux résidents et aux entreprises et l'application de la loi relative à la destruction de l'environnement et à la pollution dans la zone marine. Les approches face aux problèmes frontalières doivent être changées, a déclaré un chercheur de l'IPI. Ganewati Wuryandari, la responsable du centre de recherche de l'Institut indonésien des sciences LIPI, a affirmé que les problèmes à la frontière ne doivent pas être résolus uniquement par une approche de sécurité, mais également par une approche de protection sociale. Lors d'une discussion à Menteng, Jakarta, samedi 16 novembre 2019, Ganewati a déclaré que l'Indonésie devait changer le paradigme de la frontière. Pas plus dans l'approche de la sécurité, mais dans la sécurité et le bien-être. Elle a cité ce qui s'est passé au point de frontière indonésien-malaisien sur l'île de Sebatik dans le nord de Kalimantan. La construction des infrastructures au cours des 5 dernières années a fait la distribution des biens dans la région se déroule bien. Les besoins de base de la communauté locale, qui étaient auparavant un problème, ont également été satisfaits, peuvent être atteints. Auparavant, il y avait beaucoup de marchandises en provenance de Malaisie, maintenant 65% de l'Indonésie. Daud Jordan prend le titre de super léger. Le boxeur indonésien Daud Chino Jordan a remporté le titre super léger de l'Organisation internationale de boxe, IBO, et de World Boxing Organization, WBO. Daud Jordan a réussi à arrêter le combat de Michael Mokuna au 8e round lors de la bataille qui s'est déroulée à Batu, Java Oriental, dimanche 17 novembre 2019. Daud Jordan avait en effet maîtrisé son adversaire sud-africain depuis le début du combat. Daud Jordan continuait de pousser Mukuna au moins à chaque rond. Au milieu du rond, Mukuna s'est soudainement agenouillé et n'a donné aucun signe de poursuite du combat. Après avoir attendu un moment, l'arbitre a finalement décidé que Daoud remportait le KO technique, ou bien TKO, au 8e rang. Avec cette victoire, Daoud Jordan a ajouté à sa liste des victoires 40 victoires sur 44 comparutions. Pelny vise les cargaisons exportées vers Davao et Brunei en 2020. PT Pelny Parcero vise des opportunités de transport de marchandises exportées vers Davao et Brunei Darussalam en 2020 dans le but de développer les activités de la société. Harry Boudiarto, directeur des services de frais maritimes de PT Pelny Parcero à Lemban, dans l'ouest de Java, a déclaré que le potentiel des deux régions de l'Asie du Sud-Est était vaste et conforme au projet de la société à long terme, RGPP 2020-2024, de Pelny de travailler sur le marché. Harry a expliqué que le potentiel au Brunei Darussalam est grand ouvert parce que le pays qui borde directement l'île de Kalimantan possède une grande quantité de marchandises en provenance de Jakarta. Malheureusement, les marchandises en provenance de Jakarta entrent au Brunei via Singapour. Cependant, selon Harry, après avoir été retracé, le transport de marchandises au Brunei semble avoir une chance après avoir découvert que la région autour de Brunei souhaitait également des produits indonésiens. Un potentiel similaire, selon Harry, a également été obtenu sur le marché de Davao aux Philippines. Parce que presque tout le monde dans le sud des Philippines achète des produits en provenance de l'Indonésie. Le Forum de la jeunesse sino-indonésien a discuté de l'intensification des relations bilatérales. Le Forum à haut niveau de la jeunesse Chine-Indonésie 2019 discute de l'amélioration des relations bilatérales entre les peuples des deux pays à l'avenir. L'événement qui s'est tenu dimanche sur le campus de l'Université des études étrangères de Beijing, BFSU, a présenté 50 orateurs de 50 universités des deux pays. La veille de la réunion du forum, le championnat national de discours indonésien s'est déroulé au même endroit avec 26 étudiants inscrits en indonésien dans différentes universités chinoises. Lors de l'ouverture du forum, l'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun, a déclaré que la compréhension du langage pouvait renforcer les relations entre les deux pays. Il n'y a pas d'autre choix que de renforcer les relations les uns avec les autres pour accueillir l'avenir. Il espère qu'un plus grand nombre de citoyens indonésiens pourront communiquer en mandarin. Au lieu de cela, il espère également que davantage de citoyens chinois pourront parler indonésien. Chers auditeurs, c'était les nouvelles.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le séisme en Indonésie dans la perspective du tourisme ». Récemment, le tremblement de terre a secoué plusieurs régions d'Indonésie. La semaine dernière, un autre séisme s'est produit à Ambon, la capitale de la province des Moluques, et environ 90 maisons de la ville de Ambon ont été endommagées par le séisme. Certaines parties de Bali et de Sulawesi du Nord ont également été touchées par le séisme qui a endommagé les habitations et installations publiques. Certaines zones touchées par le séisme sont des lieux touristiques. En plus du tremblement de terre, la catastrophe a également été causée par une éruption volcanique. Le volcan Merapi en Java central, dans le centre de Java, est le plus fréquemment en éruption. Les nuages ont affecté la poussière autour de la région du volcan. Comme Bali et le nord de Sulawesi, les environs du volcan Merapi est également une destination touristique, entre autres le temple de Borobudur, qui est la cible de la visite des touristes étrangers. Les catastrophes naturelles sont l'un des événements les plus effrayants pour les touristes qui souhaitent visiter l'Indonésie. Peut-être que les informations sur la catastrophe ont retardé une visite prévue ou annulé un voyage planifié. Mais pour certains touristes, le tremblement de terre ou l'éruption du mont Merapi n'est plus un facteur pouvant décourager de se rendre en Indonésie. Bali, qui est souvent secoué par un tremblement de terre ou l'éruption du mont Agung, reste un lieu de prédilection pour les touristes. L'enthousiasme de visiter l'Indonésie n'est pas réduit grâce au meilleur système d'information. L'agence gouvernementale indonésienne chargée de l'information sur les catastrophes a essayé d'améliorer les performances et compléter l'institution avec un meilleur équipement de détection. Le moindre séisme est toujours détecté. Des efforts préventifs sont également faits rapidement. L'Indonésie est un pays souvent frappé par le tremblement de terre et les éruptions, mais ce n'est pas aussi fréquent que le Japon, comme par exemple. Et ce n'est certainement pas la raison principale pour rendre l'Indonésie effrayante. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Le 18 novembre 1918, l'indépendance de la Lettonie. L'indépendance de la Lettonie a été proclamée le 18 novembre 1918 au Théâtre national de Lettonie. Aucune limite n'a été fixée, cependant, un groupe de nationalistes dévoués a déclaré l'indépendance de la Lettonie le 18 novembre 1918. Quelques mois après cette étape audacieuse, l'intervention militaire se poursuivait encore. L'Empire russe n'était pas vouloir perdre cet important domaine. La Lettonie était occupée et contrôlée par l'Union soviétique entre 1940-1941 et 1945-1991 et par l'Allemagne nazie entre 1941 et 1945. La révolution chantante pacifique de 1987 à 1991 et la manifestation de la route baltique du 23 août 1989 ont élargi les possibilités d'indépendance des États baltes. La Lettonie a déclaré le rétablissement de l'indépendance de facto le 21 août 1991. Le 19 novembre 1993, 21 partis politiques en Afrique du Sud ont approuvé une nouvelle constitution. L'Afrique du Sud a terminé le régime d'apartheid le 18 novembre 1993. 21 partis politiques en Afrique du Sud ont approuvé une nouvelle constitution plus démocratique, telle que la constitution provisoire. Alors qu'elle est appelée la constitution provisoire, parce qu'on va créer une constitution plus permanente. La constitution provisoire change le Parlement dans un système à deux pièces qui se compose de l'Assemblée nationale et le Conseil national du Parlement ou du Sénat. Alors que la constitution comprend également la déclaration des droits, le changement de tricaméral est devenu le système bicaméral et la charte des droits est considérée comme le fondement d'une nouvelle vie plus démocratique en Afrique du Sud. Le 18 novembre 2004, la signature de la ratification du protocole de Kyoto par la Russie. Le protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est un accord valide dans lequel les pays industriels vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre collectivement de 5,2% par rapport à 1990. 90. L'objectif est de réduire les émissions de 6 effets de serre, à savoir le dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, hexafluorure de soufre, HFC et les PFC. Ils vont coopérer pour réduire les émissions. Le protocole de Kyoto a été adopté à Kyoto en décembre 1997, puis a été ouverte pour la signature le 16 mars 1998. Après la ratification officielle par la Russie le 18 novembre 2004, le protocole de Kyoto est finalement entré en vigueur le 16 février 2005. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
C'était la chanson intitulée Antara Ada dan Tiada, chantée par Nagita Slavina et Marc Sanda. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et le Mexique discutent de l'intensification des relations commerciales entre les deux pays. La délégation indonésienne a rencontré mercredi une délégation du ministère de l'économie du Mexique au Mexique. À cette réunion bilatérale, les deux pays ont discuté des efforts visant à accroître le commerce entre les deux pays. Cette réunion était la visite de clôture de la délégation indonésienne en Amérique latine. Auparavant, la délégation indonésienne a visité le Brésil et la Colombie. Le directeur de négociations bilatérales, Nimade Ayu Martini, en tant que président de la délégation indonésienne, a déclaré que cette réunion était la première approche après un long vide. Les deux parties ont fondamentalement du même avis, à savoir les relations commerciales devraient être approfondies via un mécanisme formel entre les deux gouvernements pour discuter des questions de commerce et d'investissement. Comme tenu, l'Indonésie et le Mexique sont les deux économies en développement qui ont de nombreuses similitudes. Made a affirmé, la partie mexicaine a apprécié les efforts du gouvernement indonésien pour approcher le Mexique. Selon eux, le moment de la réunion était très approprié au milieu de l'incertitude actuelle de l'économie mondiale. Les deux délégations ont également échangé des informations sur le développement économique et leur politique commerciale respective, ainsi que le développement du programme d'accords commerciaux en cours de négociation actuelle. Lors de cette réunion, la délégation indonésienne a proposé que le plan de mise en œuvre du groupe de travail sur le commerce et l'investissement, soit WZTI, qui avait été discuté en 2012, puisse être redémarré. WZTI peut être un forum où les deux pays discutent de questions et d'opportunités en matière de commerce et d'investissement, si bien que la proximité peut être établie. De plus, la combinaison des marchés des deux pays atteint près de 400 millions de personnes. L'Indonésie a également souligné à cette occasion que le Mexique était l'une des priorités de l'Indonésie dans le contexte de la diversification des objectifs commerciaux. Le Mexique considère l'Indonésie comme l'un des pays prioritaires non seulement pour le commerce, mais aussi pour l'investissement. En plus du Brésil et de la Colombie, le Mexique était un partenaire commercial stratégique pour le continent sud-américain. En plus d'approfondir les échanges bilatéraux, le Mexique peut être une liaison commerciale stratégique pour l'expansion des produits indonésiens sur le marché latino-américain. Le commerce total entre les deux pays s'élevait à 1,19 milliard de dollars américains, avec une position excédentaire pour l'Indonésie d'environ 618 millions de dollars en 2018. En 2018, les principaux produits exportés par l'Indonésie vers le Mexique étaient les véhicules à moteur, les pièces de rechange, les accessoires de véhicules à moteur, les chaussures en cuir, le caoutchouc naturel, les chaussures en textile et le cacao. Pendant ce temps, les principaux produits d'importation indonésiens en provenance du Mexique sont les téléphones, les machines automatiques de traitement de l'information et du coton. Sergita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Engkau bagai melodi yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Selalu ada, berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Mungkin ku tak selalu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu di dalam hatiku. Tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Saat ku kuat dan jatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Mélodie par le groupe musical de Massive. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme à la société locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans votre rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, nous vous invitons à visiter le musée de la forteresse de Frederburg à Yogyakarta. La forteresse de Frederburg est une forteresse située en face de Gedung Agung et de Sultanat de Yogyakarta, précisément sur la rue Margomulyo. Maintenant, la forteresse devient un musée. Dans un certain nombre de bâtiments dans la forteresse, il y a un diorama sur l'histoire indonésienne. La forteresse de Frederburg a été construite par le sultan Hamengkubuwono I pour la première fois en 1760 à la demande des Pays-Bas. À cette époque, le gouverneur du directeur de la côte nord de Java, dirigé par Nicolas Harting. La forteresse était construite à l'époque comme centre du gouvernement et défense résidentielle des Hollandais, en étant entouré de tranchées dont la meilleure partie a été reconstruite et peut être vue jusqu'à présent. La forteresse en forme de carré a une tour de surveillance aux quatre coins. Chers auditeurs, depuis 1992, par un décret du ministère de l'Éducation et de la Culture, la forteresse est devenue un musée. Certaines des principales collections du musée sont le diorama, l'inauguration de Sudirman en tant que grand commandant en chef de l'armée indonésienne, la machine à écrire de Suryo Pranoto, le document de Sutomo, etc. Le musée ouvre tous les mardis jusqu'au dimanche. Le visiteur ne paye que 3000 rupiah pour un adulte, 2000 rupiah pour un enfant et 10000 rupiah pour un visiteur étranger. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine Culture et Progression avec comme titre « Le musée de la forteresse de Vredebourg à Yogyakarta ». Demain, nous nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. À bientôt! Chers auditeurs, c'était la chanson de Malik Ed Essential intitulée Bagaimana Ku Tahu. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vos guides de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Dia belum pulang ya » en langue française. Il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? « Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Dia belum pulang ya » ou en langue française « Il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas ?» Tony et Enda parlaient sur le travail.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir « Dia belum pulang ya ?»« Dia belum pulang ya ?» En français, « Il n'est pas encore rentré, n'est-ce pas ?» Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. « Mas Joko belum pulang ya ?»« Mas Joko belum pulang ya ?» En français, Mas Joko n'est pas encore rentré à la maison, n'est-ce pas? Dia bilang ada rapat di kantornya. Dia bilang ada rapat di kantornya. En français, il a dit qu'il y avait une réunion dans son bureau. Kantor. Kantor. En français, bureau. Manager. Manager. En français, gérant. Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer. Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer. En français, il a toujours été occupé depuis qu'il est devenu gérant. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? En français, êtes-vous américain? Minggu depan. Minggu depan. En français, semaine prochaine. Kamu bekerja di perusahaan ya? Kamu bekerja di perusahaan ya? En français, vous travaillez dans une entreprise, n'est-ce pas? Dosen. Dosen. En français, professeur. Kuliah lagi. Kuliah lagi. En français, lecture à nouveau. Harus istirahat. Harus istirahat. En français, devoir se reposer. Si vous savez déjà ou que vous soupçonnez quelque chose, mais que vous voulez en être sûr, vous pouvez ajouter le mot « ya » à la fin de la phrase. Comme dans le dialogue, Enda a dit « Joko belum pulang ya ?»« Joko belum pulang ya ?» En français, Joko n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Enda savait ou devinait simplement que Joko n'était pas encore rentré à la maison. Il a demandé à Tony seulement pour être sûr. Les autres exemples. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? En français, vous êtes américain, n'est-ce pas? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? En français, tu vas en Indonésie la semaine prochaine, n'est-ce pas? Kamu bekerja di perusahaan asing ya? Kamu bekerja di perusahaan asing ya? En français, vous travaillez dans une société étrangère, n'est-ce pas? De telles phrases ne sont utilisées que dans la conversation. Les autres exemples, Joko belum pulang ya? Joko belum pulang ya? En français, Joko n'est pas encore rentré, n'est-ce pas? Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. En français, oui, il a dit qu'il y avait une réunion dans son bureau. L'autre exemple de dia bilang ou il a dit que pour les phrases en direct dans une variété informelle est uniquement utilisé dans la conversation. Exemple, Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. En français, Tony a dit qu'il travaillait comme cashier à la banque. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. En français, Dinda a dit elle veut être professeur. En notre exemple de variété formelle, atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi. Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi.
en français, mon patron a dit que je devais retourner au collège. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. En français, le médecin a dit que je devais me reposer. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Selamat Jalan ke Kasih, chantée par Wizi. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3025 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, avec moi Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Aujourd'hui, nous présentons cette fois-ci la chanson originale de Kroncong intitulée « Pasir Putih ». Cette chanson raconte de la plage de sable blanc sur l'île de Java, l'une des plus grandes îles d'Indonésie. La plage dont le sable est blanc, ce qui est très beau, est un endroit pour se réjouir. La mer bleue, voilier et vagues mousseuses rendent magnifique cette plage. Au moment de la pleine lune, la beauté de la plage de sable blanc devient plus parfaite. Bon, chers auditeurs, voici M. Rivani chantant la chanson intitulée « Pasir Putih » qui signifie le sable blanc.
Pasir putih di pantai Pulau Jawa sungguh indah letaknya tempat untuk tamasya. Indahkan permai
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!